Comme un avion sans aile, l'histoire de Radio Panique. Première partie, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes, 1983-1987. Chapitre 9, Radio Panique interculturelle, utopie et réalité, et conclusion de la première partie.
Radio Panique vous présente Latitude numéro 1. Un échantillonnage des émissions interculturelles de Radio Panique durant le premier semestre 1987, avec l'aide du ministère de la Communauté française de Belgique.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple Khmer. Salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident.
Question de principe, le droit à la différence, le droit à la liberté d'expression. Au-delà, oser l'échange interculturel. La réalité permet-elle encore un autre choix ? Interview d'Abdelatif Labi, romancier marocain, janvier 1987.
Nous combattons le racisme par le dialogue interculturel. C'est lorsque les gens ici découvriront que l'immigré, c'est pas simplement l'immigré tel qu'on le voit, mais c'est quelqu'un qui est porteur aussi de valeurs propres, d'une richesse propre, d'une richesse et de valeurs qui peuvent effectivement nous apporter quelque chose que cette image dévalorisante, dégradante de l'immigré pourra changer.
On le veuille ou non, actuellement, ce qui se passe dans beaucoup de sociétés européennes, c'est qu'on est déjà dans des sociétés pluriculturelles, pluriethniques et pluriculturelles. C'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Alors, donc, il faut partir de là. C'est-à-dire, est-ce que ce pluriculturalisme va dans le sens de l'enrichissement d'une société, du développement de la tolérance au sein de cette société, ou bien est-ce qu'il va dans, comme le prétendent les racistes et les pseudo-racistes, dans le sens d'une sorte de dégradation, d'une sorte de chaos social, culturel, etc. C'est ça la question fondamentale. Moi je crois profondément que plus une société est multiple, plus elle est riche, plus ses horizons sont divers et plus elle a de chances d'aller dans le sens d'une démocratisation des rapports, d'une humanisation des rapports. Et en ce sens-là, je crois effectivement, contrairement au discours raciste qui sourit lorsqu'il entend cela, je crois que c'est effectivement une chance pour des pays comme la France ou comme la Belgique d'avoir et d'être déjà des sociétés pluriculturelles. Parce que c'est un gage pour l'avenir, c'est le gage de sociétés beaucoup plus riches sur tous les plans, de sociétés qui, effectivement, seront plus tolérantes. Mais c'est un combat de longue haleine.
Je reviens à ma mémoire, des souvenirs familiers. Et je reviens à ma mémoire, des souvenirs familiers. Revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Rappelez-vous, Radio Panique est née dans la mouvance du front antiraciste de Schaerbeek. Schaerbeek était alors sous l'emprise d'un bourgmestre raciste, Roger Nolles. Le front menait le combat contre le racisme au niveau politico-institutionnel comme au niveau quotidien, ce qu'on appelle
le racisme ordinaire. Pour ceux qui y participaient activement, le front avait permis de surmonter un certain nombre de peurs, de préjugés et de réflexes pseudo-spontanés vis-à-vis des étrangers. Nous avions acquis par l'expérience la certitude que c'était un bonheur d'avoir des échanges mutuels entre personnes originaires d'univers différents. Nous étions proches de valeurs telles le métissage ou la mixité culturelle. Pour les fondateurs de Radio Panique, l'outil radio va permettre d'approfondir et d'élargir l'expérience acquise dans le front antiraciste. Et c'est dans cet esprit que, dès le point de départ, la porte est grande ouverte aux ressortissants des communautés d'origine non belge qui, alors, n'ont quasiment aucun accès aux médias. Quand nous disons que Radio Panique doit devenir une radio interculturelle, nous critiquons le concept alors dominant de l'intégration, comprise comme intégration totale des immigrés à la culture occidentale, à la civilisation belge, pour autant qu'on puisse utiliser ce terme. Nous sommes partisans de ce que j'appelle alors une intégration habile, c'est-à-dire un type d'intégration qui ne soit ni dissolution pure et simple de la culture d'origine, ni assimilation totale à notre civilisation. Avec Radio Panique, nous voulons développer ce type d'échange culturel et humain qui peut se passer entre, d'une part, autochtones alternatifs, en situation critique par rapport à la civilisation occidentale, et étrangers immigrés, que leur vie chez nous place en situation doublement critique, d'une part par rapport à leur culture d'origine, et d'autre part par rapport à la culture occidentale. L'interculturel est pour nous, pour le moins, échange culturel, pour le plus, mixité ou métissage au niveau de la vie associative et du média radio. What you talking about? You say you don't like the reggae beat. What you talking about? You say you don't like the reggae beat. What you talking about? You say you don't like the reggae beat. You must be crazy. J'attends beaucoup de la dimension interculturelle de la radio. La déception sera à la mesure de l'espérance, énorme. Dans les premiers temps, seule l'émission Babord se positionne à la hauteur de nos espoirs. Son animateur principal, Kemal Segwendi, semble sur la même longueur d'onde que les fondateurs de la radio. Il est vrai que personnellement, il s'inscrit dans un processus d'intégration qui l'amène à obtenir la nationalité belge et à s'engager plus tard dans la politique. Quoi qu'il en soit, l'ouverture de son émission à tous et son orientation fréquente vers les problèmes de la vie quotidienne dans le contexte bruxellois sont propices à éveiller des explicitations et des échanges significatifs aussi bien pour la communauté marocaine que pour les Belges. L'emploi majoritaire du français dans cette émission aide la cause défendue. Nous avons beaucoup de confiance vis-à-vis de l'autre protagoniste d'émissions maghrébines, Ahmed Toubari, encore un ancien de FM Bruxelles, qui plus tard deviendra animateur aux émissions internationales de la BRTN. Mais il faut avouer que, quelles qu'en soient les raisons, il ne s'est jamais impliqué beaucoup dans la pratique interculturelle que nous voulions promouvoir. Ces émissions intégralement en langue arabe sont polarisées par la situation sociale et politique au Maroc. Les protagonistes des émissions kurdes et arméniennes sont également très décalés vis-à-vis de nos préoccupations. Ils ne viennent pas à Panique pour cela, mais pour inculquer un message politique aux ressortissants de leur peuple brimé. L'émission Tropicalissimo ne participe pas non plus à la vie de la radio et se contente de séduire par les rythmes sud-américains. L'émission albanaise, plus informative, s'adresse uniquement à la communauté albanaise, très nombreuse à Bruxelles, dans sa langue, et n'a pas le souci de l'interculturel. Par la suite, nous le verrons dans la deuxième partie, son protagoniste participera davantage à la vie de la radio et coopérera à des émissions mixtes d'information sur l'Albanie et le Kosovo en français.
Donc moi je suis pour le non-voyage. Et tant qu'il y a une situation d'inégalité entre les pays d'Europe et les pays, disons, d'Afrique, d'Asie. Je trouve relativement immoral d'aller se pointer comme ça dans les pays, même si on a, soi-disant, l'esprit ouvert, si on veut connaître la culture des autres. Moi, c'est pas mon truc. Hein. Alors, peut-être dans quelques années, s'il y a un rééquilibrage des rapports entre Nord-Sud, je pourrais aller, en effet, voyager, et je me sentirais sur un pied d'égalité avec les gens. Mais pour le moment, donc, il n'en est pas question. C'est aussi une prise de position politique. Je préfère voyager ici, dans les rues de Skarbek. Et d'ailleurs, je constate que si on ouvre les yeux, si on ouvre les oreilles, on peut voyager de façon aussi intéressante à Bruxelles que sur des pistes africaines.
Abdel, du Centre socio-culturel des immigrés de Bruxelles, a lui le projet d'organiser des voyages d'amitié belgo-marocains.
En fait, ce fut un projet. Malheureusement, on n'a pas pu le réaliser. Mais pour nous, ce voyage d'amitié belgo-marocaine, d'ailleurs le titre l'indique, on aimerait qu'il y ait des échanges culturels entre la population belge et la population marocaine. Nous allons, dans notre projet, ce n'était pas question de choisir une sorte de tourisme style club méditerranéen, mais c'est plutôt un échange, je dirais, de population, surtout au niveau des travailleurs et travailleuses, qu'on puisse, envoyer des gens au Maroc pour découvrir la vie quotidienne, pour loger dans les familles, pour découvrir la vie de quartier, l'entreprise au Maroc, comment elle fonctionne, l'administration, les institutions, les lieux de loisirs, production artistique et tout ça. Et on envisageait de faire ça dans la réciprocité, donc faire venir des jeunes travailleurs marocains ici en Belgique, parce que parfois les gens ils ont une vue erronée de l'Europe et de la Belgique en particulier. On aimerait aussi les introduire ici dans les milieux populaires et qu'ils voient un peu la vie quotidienne des familles. Voilà, en gros, c'est ça notre projet, parce que on se rendait compte que un des éléments qui favorise la montée de la xénophobie, de le racisme, c'est finalement la méconnaissance des uns vis-à-vis des autres.
En 1985 et 1986, Radio Panique est littéralement envahie par des émissions animées par des ressortissants turcs. Les émissions turques occupent plus de la moitié des heures en direct. Comment en est-on arrivé là? C'est la guerre sur les ondes, Radio Panique n'a quasiment aucune audience, cela provoque le départ de presque toutes les émissions du début de la radio. Les émissions turques, elles, visent un public très local, très concentré dans quelques quartiers de Saint-Jos et de Skarbek. Le local de Radio Panique est situé en plein quartier turc. Tant et si bien que les animateurs des émissions turques sont les seuls qui ne se plaignent pas. Ils sont entendus du public qu'ils veulent toucher. Si l'on fait l'exception de l'émission Takeover, qui ne prend qu'une ou deux heures par semaine et est plutôt une émission service orientée sur le problème du logement, les animateurs des émissions turques ne sont ni des politiques, ni encore moins des intellectuels. Ce sont des jeunes de la deuxième génération, comme on dit. Ils n'ont pas trop bien réussi à l'école. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Plusieurs d'entre eux nous sont recommandés par Pierre Massard, figure mythique des quartiers populaires de Skarbek, un religieux qui s'est voué depuis des années aux problèmes issus de l'immigration et a créé des pôles d'animation pour les jeunes. Ces émissions, et en particulier Silanine Sessi, ont un format très simple. Elles fonctionnent essentiellement à longueur d'heure, par disque dédicacé. Je vois encore les animateurs débarquer pour leurs émissions avec deux énormes valises remplies de cassettes. Ils ont tout ce qu'on peut trouver comme musique dans les boutiques turques en Allemagne et en Belgique. Ils sont prêts à répondre aux demandes qui sont tellement nombreuses qu'elles bloquent parfois toute autre possibilité d'appel téléphonique. Les musiques diffusées sont en général de très médiocre qualité. mais ce sont bien celles qui sont réclamées par les auditeurs. Leurs émissions, c'est en somme comme un petit radio-contact au sein de Radio Panique. Forme primitive de la radio, le procédé des dédicaces réduit ses possibilités au plus petit dénominateur commun d'une population homogène. Il a du succès parce que c'est alors le seul repère médiatique d'identité de la communauté turque sur les ondes. La situation changera lorsque, quelques années plus tard, les chaînes de télévision du pays d'origine inonderont les quartiers via le satellite. Culte soumis de l'identité culturelle d'une minorité, ou plutôt du simulacre de cette identité, pas d'information, aucune exigence critique, voilà ce qui domine cette programmation, alors même que l'essentiel de nos forces dans cette période est consacré à arracher pour Radio Panique une fréquence comme radio alternative et interculturelle.
Mi-février, Mbisha Zaïroua, candidat réfugié politique, refusé, meurt dans l'avion où les policiers l'ont amené. Très vite, trop vite, le ministre Gol parle de suicide par empoisonnement. Tout à fait invraisemblable, avancent des représentants du comité Mbisha, invités à Radio Panique. L'autopsie le confirmera plus tard.
Il n'est pas facile actuellement d'expliquer à qui que ce soit qu'un prisonnier que deux gendarmes amènent, menottent au point, derrière le dos, il l'attache en plus à son siège dans l'avion, et cet homme a pu être capable de se procurer du poison et l'avaler. Ceci, je ne vois pas qui peut l'accepter. C'est pour cette raison que toute la communauté zaïroise, africaine, ainsi que tous les milieux qui sont sensibles aux problèmes de justice et de violation des droits de l'homme sont debout pour dire non, ce n'est pas ici que cela devait se passer.
Quelle est votre réponse suite à la déclaration du ministre Jean Gol qui vous accuse en fait de parler dans le vide et de parler sans preuve?
Mais notre réponse est très simple. Nous n'avons pas parlé le premier. C'est lui qui a parlé le premier. C'est lui qui a parlé du suicide par empoisonnement. Si au moins il avait attendu lui aussi les résultats de l'autopsie qui étaient demandés par le parquet, nous aussi, nous ne demandions pas mieux que d'attendre également ces résultats qui, pour tout le monde, ça s'avère être très long. Nous ne savons pas dans combien de temps on va les avoir. Mais en attendant, nous avons complètement et catégoriquement rejeté la thèse du suicide qui avait été présentée à l'opinion comme étant la seule acceptable.
Le conseil de gestion intervient une première fois en février 1985. Les animateurs de Gourbet Sesi refuse en effet l'accès à la radio d'une autre émission turque. Deuxième intervention en juin. De la publicité est émise sans autorisation du conseil de gestion. On découvre que les deux émissions turques se livrent une concurrence du démarchage de publicité ou de sponsoring, allant jusqu'à en brader les prix. Le conseil de gestion établit dès lors lui-même les tarifs publicitaires et commence à éditer des bons de commande numérotés afin de contrôler la situation. Troisième intervention, on interpelle les émissions turques sur leur programmation que l'on perçoit contradictoire avec les objectifs de la radio. Quatrième intervention, le conseil de gestion raffermit son autorité sur les heures d'émission. Les émissions turques ont la propension d'occuper de leur propre initiative toutes les heures libres, et Dieu sait s'il y en a alors.
Procès verbal de la réunion du conseil de gestion du 15 octobre 1985.
L'objectif progressiste et interculturel de la radio demande que les émissions ne servent pas à enfermer davantage encore les diverses communautés dans leur ghetto. D'autre part, on ne veut pas qu'un seul type d'émission envahisse à ce point la grille des programmes, que cela devienne un argument pour d'autres de ne pas émettre. C'est pourquoi il a été demandé à Silanine Sesi de réduire ses heures d'émission et de compléter son émission par des informations sur l'immigration et par des ouvertures vers d'autres communautés.
Na, na, niño, na, 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 niño.
vous étiez-vous rendu compte que les immigrés espagnols se sont beaucoup moins intégrés à la Belgique que d'autres nationalités? Écoutez ce que nous dit de l'immigration espagnole Cristobal Sanchez Garcia, animateur d'un centre socioculturel de formation créé à l'initiative de la CSC.
Cette espèce d'isolement qu'a connu l'Espagne fait qu'il y a un caractère minimum national, pour parler en termes mathématiques, qui ressort de l'Espagne, à savoir une absence de mimétisme quand on se retrouve en présence d'autres communautés d'une part, et d'autre part, une très petite capacité à digérer les autres sociétés. Est-ce que cela provient d'un certain hidalguisme historique? Est-ce que cela provient d'un certain orgueil espagnol que l'on connaissait et donc d'une méconnaissance et d'un mépris ou d'un désintérêt des autres cultures et des autres sociétés? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est un fait certain que le peuple espagnol ou les peuples, pardon, de l'Espagne se caractérisent par quelque chose qui leur est propre. C'est d'une part le phénomène de langue qu'ils adorent pratiquer et qu'ils pratiquent en toutes circonstances et en sous compris même les jeunes, et d'autre part le fait que les Espagnols dans d'autres sociétés, dans d'autres communautés, et donc ici dans la communauté belge, ont difficile à s'intégrer, en tout cas pour la première génération, du point de vue linguistique. La première génération a eu, on peut le dire, les mêmes chances que les autres immigrés du point de vue socio-professionnel. Par contre, du point de vue culturel, du point de vue essor de la langue espagnole en Belgique et du point de vue échange avec la communauté sur place, je crois, et je ne suis pas sociologue, je ne suis pas en mesure de l'expliquer, que les Espagnols ne sont pas arrivés au niveau d'intégration d'autres communautés, telles les Italiens, les Polonais, qui sont d'une vieille immigration, des Flamands qui vont ou qui allaient en Wallonie, par exemple. Je ne vois pas de niveau de comparaison, je crois, et je le constate à travers les permanences sociales et à travers les animations que nous organisons spécifiquement en espagnol et que nous essayons de faire parfois dans les deux langues, en français et en espagnol, que les Espagnols de la première génération sont, pour ainsi dire, imperméables et à des pratiques et à un vécu culturel qui leur est différent et à une langue qui n'est pas finalement tellement différente de la langue espagnole, parce que ce sont des langues latines, la langue française et la langue espagnole. Maintenant, est-ce qu'il y a un phénomène psychologique de distanciement et un phénomène involontaire? Je ne sais pas, mais le fait est que je vois une première génération d'Espagnols qui se distingue, mais vraiment très franchement, de la deuxième et troisième génération d'Espagnols et qui, paradoxalement, et contrairement à d'autres nationalités, n'est pas du tout arrivée à la même osmose, au même niveau d'échange, au même niveau d'harmonie, d'intégration que d'autres nationalités. Et je citerai par exemple, du point de vue adaptation linguistique, particulièrement les Turcs ou les Arabes, qui, ayant des langues qui ne sont pas de mêmes origines linguistiques, arrivent, c'est un constat empirique, à s'intégrer linguistiquement plus facilement que la première génération d'Espagnols.
L'attitude reçoit Vicente Fernandez.
Vicente, tu fais partie d'une organisation qu'on appelle le CEFA. Est-ce que tu peux un peu présenter pour nos auditeurs qu'est-ce que c'est brièvement le CEFA?
Eh bien, CEFA, ça veut dire Centre Espagnol de Formation et Action Université Ouvrière. Ça a été nació il y a 7 ans maintenant. Et alors, leur but, ça a été, et ça est encore, de travailler avec les jeunes espagnols qui sortent de l'école, qui ne trouvent pas de travail, qui vont au chômage, et après, tout ça qu'ils ont fait à l'école, beaucoup ou pas beaucoup, ça ne leur sert pas à grand-chose.
En fait, vous faites un ensemble de formations pour aider les jeunes à pouvoir mieux s'inscrire dans la société, trouver plus facilement du travail par la suite. Mais je sais aussi qu'au CEFA, vous avez un groupe d'animation théâtrale. Et donc, c'est un peu l'expression de la culture espagnole. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là?
Bon, ce n'est pas uniquement l'expression de la culture espagnole, c'est l'expression de la situation réelle que les jeunes entre 16 et 20, 22 ans vivent ici. conditions de l'école. D'ailleurs, dans le groupe, il y a des Espagnols, il y a des Italiens, il y a des Marocains, il y a des Belges aussi. Donc c'est un groupe open.
Dans la pratique, rien ne change vraiment. L'écart entre nos ambitions et la réalité ne peut être comblé. Seules deux issues sont imaginables. Soit l'exclusion du groupe turc, soit un réaménagement interne en fermant les yeux sur les objectifs de Radio Panique. Nous n'avons alors ni le cœur ni la force de jeter à la rue un groupe de jeunes immigrés de la deuxième génération. Après bien des discussions et des hésitations, le conseil de gestion et l'assemblée générale de Radio Panique s'engagent en 1786, mois de juin et d'octobre, vers une version de la radio à deux vitesses. C'est la fameuse distinction entre heure Radio Panique, heure gratuite, devant actualiser totalement les objectifs de la radio, et heure louée, pour lesquelles il y aura moins d'exigences quant au contenu. La dimension interculturelle de la radio devra être illustrée par une nouvelle émission qui réunira les animateurs du magazine Mixup et des émissions des communautés d'origine non belge. Par ailleurs, on demande à ces dernières d'utiliser le français comme langue véhiculaire pour au moins 50% du temps de parole, ce qui ne sera jamais respecté. Enfin, pour la cohérence de la grille horaire, on décide de localiser l'essentiel des émissions des communautés d'origine non belge dans les heures de week-end. Cette dernière mesure contente tout le monde, si bien qu'elle sera facilement appliquée. Elle visibilise bon gré mal gré la cohérence d'une radio qui choisit, quoi qu'elle en dise, de se développer à deux vitesses, renforçant dans sa vie associative et dans le média la formation de deux mondes séparés, de deux ghettos.
Latitude actualité. Visite aux candidats réfugiés politiques qui ont entamé une grève de la faim au Petit Château, avril 1987.
Bien, nous sommes ici au Petit Château, devant les portes, après la manifestation qui est organisée dimanche matin. Et j'ai près de moi donc des membres du comité des grévistes de la faim et qui sont donc en grève de la faim depuis combien de jours?
C'est notre cinquième jour aujourd'hui.
Et est-ce qu'il y a des nouvelles perspectives à l'horizon? Est-ce que vous avez des nouvelles des autorités?
On reçoit beaucoup de solidarité de l'extérieur, mais actuellement on n'a pas de réponse du ministre responsable. Parce qu'on nous dit qu'il est en vacances, on espère que la semaine prochaine, il va donner signe de vie.
Mmh. Et bon, je suppose que vous êtes suivi médicalement et tout ça.
Disons, pour l'instant, on a la collaboration du médecin et des infirmiers. On espère que cette collaboration va continuer.
L'origine de cette grève de la faim, c'était une sorte de discrimination dans les CPAS vis-à-vis de certains candidats réfugiés politiques, de certains réfugiés politiques. Qui n'était pas accepté dans certaines communes. Ça.
Oui, c'est ça. C'est que le problème s'est posé surtout il y a deux semaines parce qu'il y a eu deux cas de suicide de réfugiés africains qui vivaient au Petit Château depuis 5 mois.
Il ne suffit pas de constater. Il faut essayer d'expliquer pourquoi on est arrivé à cette radio à deux vitesses qui ne cessera de se développer jusqu'aujourd'hui, surtout avec l'arrivée du bloc de la voix hellénique, véritable état dans l'état, démonstration permanente de la résistance à notre conception de la radio. Avec le recul, je pense que cette situation a été causée par un concours de circonstances que nous n'avons pas bien perçu à l'époque. Première circonstance, la démission du front antiraciste. C'est un fait que les militants et les sympathisants du front antiraciste que nous estimions constituer le moteur de notre optique interculturelle, ne se sont pas impliqués dans la nouvelle radio. Quand Radio Panique naît, le front antiraciste de Schaerbeek est frappé par une crise dont il ne se relèvera vraiment jamais, malgré les efforts de certains. Il a tenté l'aventure politique, présentant une liste autonome aux élections communales de 1982. Échec total. N'ayant pas même obtenu un siège au conseil communal, le groupe s'effondre. Il a en plus perdu toute crédibilité aux yeux des communautés d'origine non belge. Ce qui était finalement le plus original et le plus riche en lui, les débuts d'une expérience interculturelle, disparaît suite à son erreur politique. J'étais de ceux qui estimaient que cette expérience pouvait et devait se perpétuer sous une forme clairement non politique, et notamment avec Radio Panique. Il n'en fut malheureusement rien. Deuxième circonstance, la crise de Radio Panique. Les années 1984-86 sont les années de la loi de la jungle sur les ondes. Radio Panique est battue. Son audience en dehors des quartiers environnants est nulle. Toutes les émissions du début cessent. La survie matérielle et institutionnelle est assurée alors principalement par la présence d'émissions turques qui visent à atteindre le quartier environnant et donc ne sont pas frustrés par la faible audience de la station. Comment dès lors ne pas être sensible à l'argument de leurs animateurs? Pourquoi nous empêcher d'augmenter le nombre de nos heures d'émission alors qu'il y a bien trop peu d'émissions pour remplir de direct ces heures? Ce même argument sera utilisé plus tard par d'autres groupes dont le but sera aussi moins la qualité du programme que sa quantité. Posséder le plus grand nombre d'heures dans la grille horaire, signe démonstratif d'une certaine idée de puissance, peut-être. Je pense à La Voix hellénique et à Afrique en un déclic. Ce qui s'est passé avec les émissions turques restait relativement plausible dans une situation de crise extrême. Mais l'erreur des responsables de Radio Panique aura sans doute été de perpétuer par la suite un mode de fonctionnement qui aurait dû rester limité dans le temps. L'option résignée pour une radio à deux vitesses est insoutenable une fois le temps de crise extrême dépassé. Troisième circonstance, intention et intérêt divergents. Je pense aussi que les protagonistes de Radio Panique ont été les victimes de leurs propres contradictions. Ils ont une conception très généreuse de l'antiracisme et de l'interculturel. La porte est grande ouverte pour les groupes de l'immigration et ceux-ci n'hésitent pas à franchir cette porte. C'est jusqu'au ministère de la Communauté française qu'on recommande aux radioteurs de l'immigration de s'adresser à Radio Panique. Victimes de leur attitude d'ouverture a priori, les responsables de Radio Panique se sont avérés trop peu critiques et trop protecteurs par rapport à des groupes issus de l'immigration qui sonnaient à leur porte avec des intentions très diverses. Soif de pouvoir politique ou idéologique, arrivisme individuel et social, etc. Intentions que nous n'avons pas à juger en elles-mêmes, mais qui étaient complètement décalées par rapport à nos propres intentions définies dans la charte de la station. Manque de connaissance des milieux d'immigration, sans doute. Mais surtout l'erreur de prendre une attitude d'assistance sociale traditionnelle lorsqu'on est confronté à l'immigration, disons, ordinaire, alors qu'il s'agit de bâtir une radio cohérente. Ce qui est fatal quand il s'agit de faire de la radio, qui plus est de la radio alternative. Les responsables ne peuvent supporter l'idée de refuser ou de rejeter à la rue des animateurs étrangers qui manifestement soit ne sont pas sensibles aux objectifs de Radio Panique, soit n'en ont rien à foutre, parce que leurs intérêts et leurs objectifs sont autres et qu'ils s'obstinent à rester chez nous alors qu'ils ne trouveraient aucune place ailleurs. Nous avons des difficultés à assumer le fait que mettre le holà par rapport à une émission issue de l'immigration laborieuse soit interprété comme une attitude raciste ou comme un réflexe de classe. Et d'ailleurs, ce reproche nous sera fait plus tard, notamment de la part du président de la Voix hellénique, lorsque nous nous opposerons à ces comportements antidémocratiques. Avec le recul, on peut avancer que les protagonistes de Radio Panique, à ses débuts, ont résolu de la manière la plus pragmatique qui soit le problème de la coexistence d'intentions et d'intérêts divergents, alors qu'il aurait fallu le traiter théoriquement et pratiquement au niveau de l'association. Cette erreur des débuts a été lourde de conséquences par la suite. Nous le verrons dans la troisième partie de cette série. En attendant, si les responsables du début n'avaient pas eu cette attitude pragmatique, il n'y aurait plus eu de Radio Panique au moment de l'établissement du plan de fréquence fin 1986. Et c'est bien là l'ambiguïté de toute l'affaire.
Extrait de la presse du 24 novembre 1986. La dernière heure.
Deux Turcs attaquent au couteau les animateurs d'une radio libre turque. Des coups de couteau ont été portés par deux ressortissants turcs à cinq autres Turcs qui étaient en train d'émettre sur une radio libre à Saint-Josse. Les faits se sont déroulés peu avant minuit, la nuit de samedi à dimanche, rue Gillon 57. Deux Turcs ont fait irruption dans le local, exigeant la cessation immédiate des émissions, dont le contenu, disaient-ils, ne correspondait pas à leurs convictions politiques et religieuses. Les cinq Turcs ont été blessés au couteau et transportés à l'hôpital. Les deux agresseurs ont été appréhendés.
Le soir.
Saint-Josse. Bagarre samedi vers minuit, rue Gillon, dans les locaux d'une radio libre, entre guillemets, turque. Plusieurs individus, entrés dans les lieux, ont frappé à coups de couteau cinq personnes, dont deux ont été gravement atteintes. Vendredi soir, un homme d'une cinquantaine d'années a été attaqué dans la galerie commerciale du métro Madou et violemment frappé. La victime a été blessée à la tête. L'auteur lui a dérobé un étui de cuir et une chaîne en or.
De Morgen.
Wegparte in Turkse lokale radio. Brussel, België. Zaterdag rond middernacht is een vechtpartij uitgebroken op een lokale Turkse radio in Brussel aan de Gillonstraat 57 in Sint-Joostenode. Vijf Turken waren een uitzending aan het verzorgen toen twee andere Turken het lokaal binnenkwamen. Het duo eiste dat de uitzendingen onmiddellijk werden gestaakt, omdat de inhoud niet strookte met hun politieke en godsdienstige overtuiging. De vijf radiomedewerkers wimpelden de eis van hun landgenoten af en zetten het programma voort. Dit gaf aanleiding tot een vechtpartij waarbij messen werden getrokken. Vijf Turken werden met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee messentrekkers werden aangehouden.
La Cité.
Vendredi 24 février 1984, 22h30. Un incendie se déclare dans les cinémas Capitole, avenue de la Toison d'Or à Bruxelles. Cinq personnes y trouvent la mort, plusieurs autres sont blessées. Petit à petit, les enquêteurs se sont orientés vers la thèse de l'incendie criminel. Samedi matin, le quotidien flamand Het Laatste Nieuws annonçait la mise sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction François Scudel de deux jeunes garçons d'origine turque. Trois autres jeunes turcs sont encore recherchés pour complicité. Les deux jeunes mineurs, 13 ans au moment de l'incendie, ont déclaré vouloir voir de près l'effet que fait une catastrophe. On peut aussi craindre que le résultat de l'enquête soit mis à profit par certains ultras de la sécurité pour renforcer des mesures de répression utilisant l'équation immigration plus jeune égale délinquance. On parle de nouveau à Skarbek d'interdire les rassemblements de plus de 5 personnes sur le territoire de la commune. Cette fois, la mesure ne s'appliquerait qu'aux mineurs d'âge. Monsieur Knowles, invoquant la recrudescence des agressions par arrachage de sacs, parle également de demander aux ministres compétents d'autoriser le relevé des empreintes digitales des mineurs interpellés lors d'opérations coup de poing. Quoi qu'il en soit, la communauté turque de Skarbek est en émoi après les révélations sur l'incendie du Capitole. Mais également après une bagarre entre ressortissants turcs qui a eu lieu samedi vers minuit dans les locaux d'une radio libre de la rue Gillon à Saint-Josse. Deux Turcs ont fait irruption dans les locaux de la radio en exigeant la cessation d'une émission qui, disaient-ils, ne correspondait pas à leurs convictions politiques et religieuses. Étrange pour une émission de disques demandés. Lors de la discussion, des couteaux ont été sortis. Cinq personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Quant aux deux hommes armés, ils ont été appréhendés.
Que s'est-il vraiment passé à Radio Panique cette fatale nuit du 22 au 23 novembre 1986. C'est seulement le dimanche 23, fin d'après-midi, que je suis alerté par un animateur du fait que des scellés de la police sont apposés sur la porte du local de Radio Panique. Je suis très perplexe, je me rends immédiatement sur place et je constate en effet la présence de scellés. Je me rends alors à la police de Saint-Josse. Que se passe-t-il ? Un inspecteur m'apprend qu'il y a eu une bagarre à Radio Panique la nuit précédente. Les policiers ont été avertis par un coup de téléphone. Plusieurs des animateurs turcs ont été attaqués et poignardés. Trois d'entre eux sont gravement atteints et hospitalisés à la clinique Saint-Étienne. Deux des agresseurs sont arrêtés. Je dis « Mais pourquoi avoir mis les scellés et sans avertir un des responsables de la radio ?» Les flics répondent « Nous avons tout de suite compris qu'il s'agissait d'une vengeance entre Turcs, d'une vendetta, car un des animateurs, marié mais séparé de sa femme, se trouvait avec la fille d'une autre famille turque sans le consentement de cette dernière. Vous savez, nous, on a eu des cours sur les mœurs des Turcs. Nous avons tout de suite compris de quoi il retournait. Nous ne vous avons pas averti parce que nous sommes au courant de ce qui s'est passé. Pour nous, vous n'êtes responsable de rien. C'est pourquoi on n'a pas cherché à vous contacter. Bon, très bien, mais je ne comprends pas qu'on a posé les scellés sur l'entrée d'une radio sans en avertir des responsables. Ils seront enlevés dès qu'il y aura eu descente du parquet, c'est la loi. Le lendemain, plusieurs journaux recopient une dépêche de Belga qui explique la rixe en fonction de motifs politico-religieux. Je fais une enquête de rue dans le quartier. Les Turcs du coin ont l'air très au courant, sont évidemment très discrets, mais confirment l'interpellation de la police. Je rédige un communiqué de presse rectificatif auquel, à ma connaissance, seule la lanterne donnera écho. Au-delà des faits, il s'agit aussi de réagir contre le préjugé du jeune immigré voyou. C'est l'époque où le bourgmestre de Skarbek interdit les rassemblements de plus de 5 personnes dans les quartiers populaires de sa commune. Pour autant qu'on puisse reconstituer les faits, un des membres de l'équipe de Sinanin, Sesi, aurait hébergé une fille en fugue. Ce sont les frères de cette dernière qui ont voulu venger ce qu'ils pensent être l'honneur perdu de leur sœur. Ils pensaient la trouver à la radio. Deux agresseurs ont été arrêtés à la clinique même parce qu'ils s'acharnaient à nouveau sur leurs victimes. Lors de notre enquête chez les Turcs du quartier, nous croyons comprendre que l'émission Sinanin Sesi est soupçonnée de coder certaines des dédicaces de disques pour favoriser la rencontre à la radio des animateurs avec des filles. Bref, Radio Panique est perçue par certains comme un bordel. Pire même, car certains parlent de viols perpétrés à la radio. Le responsable de Sinanin Sesi dément avec véhémence. On connaissait très bien les filles qui venaient à l'émission. Ce sont les mêmes qui venaient déjà au local de la SBL Raskinet du frère Pierre Massard, quand on s'occupait de l'animation du quartier. Bah, on ne connaîtra jamais le fin fond de la vérité. 3 jours après la rixe sanglante à Radio Panique, les scellés apposés par la police ne sont toujours pas enlevés. Je raconte aux policiers que les appareils doivent toujours être allumés et qu'il y a risque d'incendie si nous pouvons entrer dans le local. Cette intervention insensée a de l'effet. Les scellés sont immédiatement enlevés. Le local est inondé de sang. Plus courageux que les autres animateurs, Stéphane Le Poutre et son amie Rita nettoient tout. Suite aux articles de la presse, le ministre Monfils ordonne une enquête. Très mauvais, alors que les reconnaissances des radios à Bruxelles sont encore en jeu. Mais cette enquête n'aura aucune conséquence néfaste pour nous. Je vis personnellement la tuerie du 22 novembre comme une sorte de conséquence terrible de nos lacunes en matière interculturelle. C'est nettement exagéré. Avec le recul, disons que cette tuerie dans les locaux de Radio Panique met en lumière tragique l'incroyable inégalité de développement culturel qui existe en son sein entre les protagonistes de l'optique interculturelle et la réalité de l'émission turque. La rixe sanglante du 22 novembre met forcément un terme à cette émission. Son éventuelle reprise est conditionné à une participation active de leurs animateurs au projet des missions interculturelles. Comme ce ne sera jamais le cas, ils disparaîtront de notre horizon. En octobre 1986, on l'a évoqué plus haut, le conseil de gestion de Radio Panique avait décidé la mise en route d'une émission interculturelle. Notre nouvelle employée à mi-temps, Laetitia de Ketelaar, est chargée de préparer et d'organiser la nouvelle émission interculturelle. Ce n'est pas un hasard. Laetitia est une grande baroudeuse dans le monde. Sa vie est jalonnée de voyages en Afrique et en Asie. Elle est très sensible aux diversités culturelles et peut se faire l'interprète de leurs rencontres. Elle reprend à son compte une idée que j'avais déjà exprimée à plusieurs reprises. Ce n'est pas avec les seuls animateurs à Radio Panique issus des communautés d'origine non belge qu'on pourra réaliser ce projet. En effet, la plupart d'entre eux jouent sur la scène de leur communauté respective, cherchant sans doute, par la radio, à y jouer un rôle d'influence ou même de leader. Pas question pour eux de mettre en cause la chaise sur laquelle ils sont assis. Ils n'ont ni intérêt, ni plaisir à risquer les échanges interculturels. Il vaut donc mieux chercher dans les associations d'autres personnes plus clairement ouvertes à notre projet. Laetitia invite tout azimut, et plusieurs dizaines de personnes se réunissent de janvier à mai 1987. Laetitia définit le projet, un échange mosaïque entre cultures jusqu'ici simplement juxtaposées à la radio. Le projet initial, tel que Laetitia et moi l'avons concocté, prévoit un déroulement en direct de l'émission dans un lieu public, avec un présentateur, des interventions individuelles et des mini-débats autour d'un thème de vie quotidienne, ainsi que la participation de musiciens. Un lieu où les gens s'installeraient autour de petites tables et pourraient grignoter quelque chose et boire un verre, avec un micro par table. Des problèmes d'ordre technique et financier, peut-être aussi de motivation, empêcheront la réalisation de ce projet. Les émissions se dérouleront en studio. Les réunions de préparation sont parfois difficiles. On sent beaucoup de méfiance mutuelle entre certains participants. Il n'est d'ailleurs pas toujours simple de se faire comprendre en français. Les motivations sont diverses. Et surtout, on ne veut pas vraiment prendre en main l'émission. Celle-ci sera finalement confiée à l'équipe de Mixup.
Salut à toi l'Éthiopien, salut à toi le Tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Cholie Allemande, salut à toi le Vietnamien, salut à toi le Cambodgien, salut à toi le Japonais.
L'Attitude rend visite à Abderrahmane Cheradi, éditeur et rédacteur de Tribune Immigrée. Nous lui posons des questions sur l'histoire de la musique arabe.
On peut distinguer cette musique selon deux grands ensembles. Il y a l'ensemble classique qui est d'origine arabo-andalouse, Moyen-Orient et l'Andalousie arabe, et un deuxième groupe populaire, qu'on peut appeler carrément populaire, qui est berbère-arabe, essentiellement donc pour les trois pays du Maghreb. Et c'est ce qu'on retrouve principalement ici, par exemple en Belgique et en Europe, qui a été importé, si je puis dire, par les immigrés qui se sont installés ici. Et c'est ce qu'on rencontre le plus souvent dans les familles marocaines, algériennes, tunisiennes qui habitent la Belgique, par exemple. Je voudrais d'abord rappeler pour la musique andalouse qu'elle n'est pas seulement la musique des palais, mais aussi qu'elle est la musique des grandes circonstances, pour les mariages, les circoncisions et tout, quand on veut organiser une fête avec beaucoup d'éclat, c'est un orchestre de musique andalouse qu'on loue à ce moment-là pour se produire devant les invités. C'est vraiment la musique des grandes circonstances. La musique populaire est la musique de tous les jours. Ça, on l'entend du matin au soir, partout dans les rues, dans les villes et les médinas et les villages. C'est celle qui annonce aussi les événements quotidiens, sociaux, culturels de la population, les, les mariages, les fiançailles, les circoncisions et tous ces passages, les rites de passage de la vie d'un enfant ou d'un adulte, qui se jouent avec des instruments assez rudimentaires en général. C'est des banjos, des sortes de banjos à deux cordes, plus un tambourin en cerceau, plus des castagnettes métalliques assez grandes. Et c'est souvent deux, trois personnes maximum qui forment un orchestre, et qui est d'ailleurs ambulant, qui se promène dans les rues et chante des mélodies populaires. Il y a ce qu'on appelle la musique populaire moderne, mais qui est surtout influencée par la musique orientale et égyptienne essentiellement, égyptienne et libanaise, qu'on a hérité des grands films d'opérettes musicales égyptiens et libanais. Il y a un effort de se distinguer de la part des artistes marocains, mais l'influence reste essentiellement quand même égyptienne dans ce domaine-là. Il y a aussi une nouvelle tendance depuis une dizaine d'années chez des jeunes, essentiellement des jeunes, qui ont repris la chanson et le rythme populaire qu'on rencontre dans la rue, comme j'ai dit tantôt, et qui l'ont réécrit et rythmé davantage. Et là, c'est le style d'un groupe très célèbre que tout le monde connaît, même en Belgique ici, de Nassel Riwan, par exemple, et Gilles Gilala.
Un mouvement en Algérie qu'on appelle la Roromanie, je pense, qui en fait, c'est de la musique qui est en fait issue de l'immigration, qui représente surtout les jeunes, soit les jeunes immigrés de deuxième génération en Europe, soit un mouvement qui est assez jeune et influencé quand même par le monde extérieur en Afrique du Nord.
Il y a une influence occidentale qui se fait, bien sûr. La Roromanie, comme vous dites, est un phénomène essentiellement beurre, qui se situe en France et non pas en Algérie. Même dans les pays d'origine du Maghreb, il y a une influence occidentale qui se fait, notamment au niveau des instruments. On commence à utiliser des instruments électroniques où il y a des banjos électroniques, des guitares électroniques, beaucoup de choses qui commencent à intervenir dans ce domaine-là. Mais il y a une musique essentiellement immigrée, on ne peut pas lui donner un autre qualificatif, qui est née du dynamisme culturel des jeunes générations, essentiellement en France, mais également en Belgique, où des jeunes de la deuxième génération, soucieux de perpétuer le patrimoine culturel qu'ils ont hérité de leurs parents et du pays d'origine, de par leur éducation, de par leur socialisation en milieu occidental, ont apporté un nouveau rythme hérité de la musique pop et de rock qu'ils connaissent parmi leurs copains, et ont donné naissance à une nouvelle musique qui se chante souvent en français sur un rythme oriental arrangé à l'occidental.
Invité de Latitude, Ahmet Oubari.
Du raï, je crois.
C'est du raï, exactement. C'est ce qui fait rage actuellement dans les pays du Maghreb.
C'est Tchep Khaled qui l'annonce assez connu, même en dehors des milieux arabes, je crois.
Exact, exact. Mm-hmm. Alors, c'est comme ça qu'on amorce, bien qu'on se prétend radio alternative. On commence par ce qui est traditionnel, par ce qui est à la mode, parce que c'est comme ça qu'on peut attraper les gens, si on veut.
Ahmed, je précise que tu es aussi animateur de radio et tu travailles à l'émission donc Saoud al-Mouadja. Et bon, on parlait du raï, qui est une musique très moderne, mais est-ce que le raï, quelle est la fonction de cette musique? Est-ce que c'est une fonction uniquement récréative ou bien c'est une fonction sociale ou revendicative?
C'est-à-dire qu'à partir du réel, on essaie de faire un rêve ou bien de créer l'avenir à partir de ce qui existe, de ce qui est traditionnel, de ce qui est même parfois mauvais, on essaie de montrer l'alternative. Donc de montrer qu'il n'y ait pas que ça, qu'il y ait une autre chanson avec d'autres thèmes, avec d'autres mots. Et c'est comme ça qu'on essaie de modifier un peu le cours de l'histoire.
Et dans la musique arabe, je suppose qu'il y a autre chose que le raï, bien sûr. Est-ce qu'il y a comme musique, que ce soit traditionnelle ou moderne?
Oui, enfin, quand je dis traditionnelle, c'est pas par rapport au temps, mais par rapport aux habitudes des gens. J'ai entendu l'interview de tout à l'heure. Effectivement, il y a une musique qu'on peut appeler moderne, qui est le raï, qui est le shikhat, qui est les groupes, comme la Selrewa et compagnie, mais à vrai dire, c'est pas si moderne que ça, c'est une reprise. Mais il n'y a pas que ça, à vrai dire. Il y a une autre musique alternative, une autre chanson qui ne répète pas le passé, qui ne répète pas les mêmes thèmes. Et c'est le rôle de mon émission, à vrai dire, c'est de montrer aux gens qu'il y a autre chose à partir de ça. Donc on fait écouter aux gens, évidemment, ce genre de musique pour ne pas être tout à fait marginaux. Mais on leur montre de temps en temps qu'il y a une autre chanson, qu'il y a une revendication à partir de la musique, à partir de la chanson, qu'il ne suffit pas, ou bien il ne faut pas nécessairement faire un discours politique flamboyant pour montrer que la situation n'est pas si brillante que ça. Ce qui est remarquable actuellement, ce qui est étonnant, c'est que la musique qu'on appelle traditionnelle, vieille, lente, longue, répugnante parfois aux yeux de la génération nouvelle, commence à avoir de la valeur. On commence à l'apprécier. Est-ce que c'est le retour aux sources? Est-ce que c'est la recherche de l'identité? Est-ce que c'est une protection psychologique? Je n'en sais rien. Mais on trouve de plus en plus de jeunes maghrébins issus de l'immigration qui fredonnent des chansons traditionnelles sans savoir le sens ni comprendre les mots, quoi. Donc de la musique de leurs parents. Évidemment, les parents sont restés, le mot c'est ça, sont restés bloqués au passé avec la musique qu'ils ont entendue il y a 20 ans. Alors tout renouveau pour eux est occidentalisé, quoi. Et pour eux, ils veulent quand même rester purs et intacts.
Mais donc, d'après toi, il y aurait quand même un mouvement de la part des jeunes vers les immigrés plus âgés, en tout cas au niveau de la musique. Donc, il y aurait quand même un mouvement de rencontre qui se ferait, ne fût-ce que dans un sens pour le moment, quoi.
Exactement. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce ne sont pas les parents qui passent ce message et qui passent cet héritage musical, artistique aux enfants, mais ce sont les enfants qui le découvrent. Or, dans le temps, il y avait une coupure. Moi, je peux m'imaginer facilement une famille où les parents écoutent de la musique arabe et les enfants qui s'enfuient parce qu'il y en a marre de cette musique barbare. Et bien, cette musique barbare commence maintenant à avoir de la valeur parce qu'on commence à découvrir, on commence à écouter et peut-être poussé par d'autres éléments extérieurs.
En contraste total avec ce qui se passe d'habitude à Radio Panique, la préparation de la première émission, qui s'appellera « Latitude », donne lieu à l'élaboration d'un script très précis. Une bonne proposition de script par Laetitia est contestée par Stéphane Lepoutre, plus pragmatique, qui rabat « Latitude » à une émission ouverte de Radio Panique. Philippe Livreau, lui, propose de faire une émission beaucoup plus spontanée en direct du Petit Château, qui vient d'être fonctionnalisé en lieu d'accueil des candidats réfugiés politiques. Laetitia demande au conseil de gestion de choisir. Celui-ci estime que la proposition de Philippe Livreau détourne trop le projet de ses intentions globales. Il pense qu'une synthèse entre les propositions de Laetitia et de Stéphane est possible. On décide de procéder de manière pragmatique. Voir ce dont on est sûr, puis avancer. C'est finalement moi qui élaborerai le script définitif. C'est la première fois que je joue une sorte de rôle de réalisateur ou de régisseur d'émission. Mon minutage est précis, méticuleux et strict. Je me prends au jeu. J'en ai marre de l'improvisation permanente. Je dirigerai l'émission de manière très autoritaire. Une deuxième émission aura lieu sur le thème des vacances. Et puis il n'y aura plus d'émission. Laetitia de Quételard, comme elle l'avait annoncé, termine ses 6 mois de TCT en juillet 1987. Quelques mois plus tard, je réaliserai un florilège des 2 émissions. C'est de ce montage que sont extraites la plupart des séquences que vous avez eu l'occasion d'entendre lors de ce chapitre de « Comme un avion sans aile ». Après le départ de Laetitia, le poste TCT mi-temps du Centre hellénique est occupé durant l'été 1987 par Philippe Walraff. Puis ce poste sera repris par Tonia Simon, une assistante sociale du Centre hellénique. Hormis une personne qui malheureusement n'est pas dans les conditions exigées, nous n'avons en effet trouvé personne de valable pour le reprendre. Et Sakis Dimitrakopoulos, le président du centre, nous l'a recommandé, Tonia Simon.
Donc toi tu es grec ?
Oui.
Et pour toi la musique, la fonction de la musique, c'est une fonction récréative pour rêver ou bien ça peut t'amener à penser, à changer des choses dans ta vie ou dans la vie extérieure?
Oui, bien sûr, les deux finalement. Tout dépend de la situation dans laquelle je me trouve ou dans l'état d'âme. Pour moi, bon, la musique, il y a la musique pour m'amuser. Dans les fêtes, je vais aux fêtes grecques par exemple, j'écoute de la musique pour m'amuser, pour déconner, pour me sentir un peu grec. Puis il y a une autre musique qui finalement fait réfléchir, qui est la musique, si vous voulez, de Theodorakis. Bon, Theodorakis a eu un impact énorme durant la période de dictature. Tout le monde écoutait Theodorakis, on ne jurait que par lui, et finalement il avait un énorme rôle. Actuellement, Theodorakis n'a vraiment plus cet impact, bon, sauf chez les gens de la première génération. Puis il y a maintenant aussi un nouveau courant qui est là depuis 4 ans plus ou moins, qui réunit les traditions grecques et la musique rock.
C'est un peu comme le rail peut-être.
Oui. Mais disons, au niveau revendication, tout ça, ça n'a aucun rôle. C'est vraiment pour montrer qu'il existe une musique grecque et qu'on peut faire autrement que la musique traditionnelle. Parce que si on veut la musique traditionnelle grecque, vraiment ce que si on appelle la tradition même, a des origines turques aussi.
Oui.
Bon, il y a un rythme beaucoup plus turc que grec.
Les thèmes des musiques traditionnelles, c'est quoi?
C'est l'amour, la joie, les peines, tout ce qu'on rencontre finalement tous les jours. Mmh. Bon, les jeunes ici écoutent essentiellement de la musique traditionnelle, c'est-à-dire, bon, si on se sent amoureux, on écoutera des chansons douces, tendres. Enfin, c'est ce qu'on a écouté tantôt. Bon, si on est plus heureux, ce sera des chansons amusantes, mais c'est pas vraiment la nouvelle vague. Il y a vraiment très très peu ici en Belgique qui écoutent ce style de musique. Ou alors ce sont les étudiants qui sont venus de Grèce et qui viennent étudier ici qui écoutent ce style de musique.
Tonia se révélera une employée correcte et serviable, mais assez incompétente en radio alternative et incapable de relancer l'attitude. L'émission d'information générale Mixou, qui deviendra plus tard Jardin Public, en assumera l'héritage.
L'avantage de la radio sur la télévision, c'est que la radio a supprimé l'image, mais l'avantage de Panic lui est décisif, c'est que nous, on a conservé les couleurs.
Nous voici au terme de la première grande partie de l'histoire de Radio Panique. En 1983, Radio Panique est née à une époque où la dynamique du mouvement des radios libres déclinait déjà. À Bruxelles, tout comme Radio Air Libre et les radios alternatives, elle a réussi à survivre à l'irrésistible conquête des ondes FM et de la législation par les radios commerciales. Ce n'est pas rien lorsqu'on songe aux dizaines de radios libres qui ont sombré corps et bien lors de ces années de crise. À partir de 1987, avec l'établissement d'un plan de fréquence, On peut imaginer qu'il sera désormais possible pour les responsables de Radio Panique d'investir leurs énergies non plus à défendre son existence, mais à faire et à faire faire de la radio. C'est ce que nous verrons dans la deuxième grande partie de cette réalisation qui s'appellera « La stabilisation de Radio Panique ». Curieusement, chaque grande étape de l'histoire de Radio Panique coïncide à un déménagement. Celui de la rue Gillon et aussi de son quartier, lieu privilégié de la communauté turque. Ce déménagement est envisagé depuis quelques mois, mais il est précipité par une nouvelle péripétie. La propriétaire, une dame très âgée, a dû être placée dans un home. Le nouveau propriétaire est de nationalité turque et ne veut plus de nous. Il rénove la maison de manière forcément bruyante pendant les heures d'émission. Il tente de m'intimider. Il débarque avec une sorte de commando et m'accuse violemment de racisme parce que j'oppose à ses velléités d'expulsion la loi régissant les loyers. Il ira jusqu'à sciemment couper les câbles du téléphone et à boucher les conduits des cheminées sans nous avertir, provoquant un début d'asphyxie chez les personnes présentes dans notre local à ce moment-là. Enfin, nous trouvons un rez-de-chaussée libre et pas trop cher, rue Thomas Vinsot, et c'est sans le moindre regret que je quitte la rue Gillon et ce quartier-là. Une nouvelle aventure commence.
Ça y est, fais passer la barrière, et t'attends. Pour moi, tu seras la dernière de tous ces gens. Dans la passerelle hermétique, tu t'avances. Tu ne verras rien de la piste, tu t'en balances. Prends l'avion pour un autre là-bas. Et nécessite, et nécessite pas. Prends l'avion pour un autre là-bas. Et nécessite.
C'était Radio Panique interculturelle, utopie et réalité, et conclusion de la première partie. Neuvième et dernier chapitre de la première partie de la série « Comme un avion sans ailes, l'histoire de Radio Panique, 1983-1987, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes. Prochaine partie, 1987-1994, la stabilisation de Radio Panique.
Comme un avion sans ailes est une production de la cellule création de l'ASBL Radio Panique. Texte et réalisation Marcel Aufleur, prise de son Xavier Jacques, mixage et montage Xavier Jacques et Patrick Verdrenk. Vous avez entendu les voix par ordre d'entrée en onde de Marcel Aufleur, Isabelle Neux, Anne-Sophie Brecht, André Salgado, Laurence Bronnier, Francine Boy, Mathieu Gaillet, Philippe Dubois, Chantal Van den Heyde, Patrick Verdrenk, Christelle Duvivier, Éric Georg Herbault et Xavier Jacques. Comme un avion sans aile a été réalisé avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la communauté française de Belgique.